Canalem est heureuse de vous présenter le premier audioportrait consacré à Madame Jeannine Vanier. Madame Vanier est aveugle de naissance, mais elle est aussi musicienne depuis toujours. Nous l'avons convaincue de nous raconter quelques épisodes de sa vie.
Merci Clotilde de m'avoir invitée à cette première émission. Mon nom est Jeannine Vanier. J'ai déjà mes 86 ans, je viens de les passer. Je suis née à Laval des Rapides en 1929. Aujourd'hui, ville de Laval, c'est grand, mais à cette époque, c'était un petit village. On m'a déclarée aveugle 2 mois peut-être après ma naissance. Je pense que je ne fausse pas la réalité en disant que j'étais déjà aveugle au tout début parce que la naissance a été très difficile pour ma mère et pour moi. Il a fallu qu'on m'envoie à l'hôpital parce qu'il y avait des problèmes sur mes yeux. Alors, je ne sais pas ce qu'on a fait à ce moment-là, mais au bout de 2 mois, on m'a renvoyé en déclarant officiellement aveugle. Alors, je ne prolongerai pas là-dessus, là. C'est ce qu'on m'a dit, en fait. Mais ce dont je me souviens clairement, c'est qu'à partir de 5 ans, il y avait un piano chez moi, puis je commençais à jouer par oreille tout ce que j'entendais. Chez nous, ils disaient « joue-nous donc telle chose, joue-nous donc telle chose ». Il y avait de la musique populaire de l'époque, puis on avait des disques à part ça. Alors, je me faisais des petits accompagnements, un peu bébête peut-être, mais en tout cas, c'était vraiment mon passe-temps parce qu'il n'y avait pas d'autres activités que je pouvais faire vraiment à part ça.
C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches que ton cœur aime tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman.
Je me rappelle Tino Rossi. Il y avait Jean Clément aussi, dont je me souviens. Je ne peux pas détailler trop quand même parce que c'est quand même un peu loin. Mais je sais que je jouais du piano tous les jours chez moi.
Il a suffi d'un mot de toi et d'un regard de tes yeux pour faire naître au fond de moi tout cet amour merveilleux. Si tu savais comme il m'est doux d'évoquer à tes genoux la minute où ta voix murmura, crois-moi, à l'instant même j'ai dit je t'aime de tout mon cœur. Dans ma folie, donnant ma vie de tout mon cœur.
Mon père travaillait pour la ville de Laval, mais un peu plus tard, il a voulu s'établir à son compte. Il s'est organisé pour avoir un commerce, une épicerie. Évidemment, ça a changé quelque chose un petit peu dans notre vie parce qu'on est déménagé dans un logement plus petit qui était derrière le magasin. Maman allait souvent aider mon père au magasin. Puis c'est sûr que maman revenait souvent à la maison. Elle m'aidait pour les repas aussi parce que, évidemment, il fallait me faire manger. Ça, c'est sûr que j'ai aucun reproche à faire à mes parents, mais seulement ils ne savaient pas comment faire. Alors maman me faisait manger, m'habillait et tout ça jusqu'à ce que je commence à aller à l'école.
Thank you.
évidemment des contacts. Avant que j'aille à Nazareth, on était tous ensemble, mais depuis que j'ai été pensionnaire à Nazareth, on se voyait évidemment durant les vacances, mais plus le temps a passé, il a fallu que je gagne ma vie. Alors on s'est vu, je dirais, de moins en moins, parce que eux sont demeurés à Laval ou dans le nord, dans les Laurentides, et moi, je suis demeurée à Montréal. Je sais que ma mère, des fois, elle me disait que je manquais un peu de... Elle aurait voulu avoir, je pense, plus de tendresse pour moi. Des fois, elle me disait « touche mon visage ». Je n'étais pas portée à le faire. Puis c'est vrai, même aujourd'hui, j'ose pas, évidemment, toucher trop les gens, faire des câlins ou des choses comme ça, parce que j'ai peur d'être maladroite, de mal aborder la personne. Mais là, je me vois aller autour de maman, parce que je sais qu'elle a eu des peines des fois, elle a eu beaucoup de souffrance, parce que mon dernier petit frère, celui qui est né bien après moi, là, était beaucoup plus handicapé que moi. C'était un enfant qui a passé sa vie dans son lit, paralysé d'un côté, puis une paralysie cérébrale. Il est resté comme un enfant là, dont on prend soin. Encore là, c'est dû à des naissances douloureuses et pénibles. Alors, tout ça pour ma mère, c'était beaucoup de souffrance, puis je suis sûre qu'elle aurait eu besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup. Je vous ai dit une fois au téléphone que je n'étais pas un cadeau, hein? Ben c'est ça. Alors, je l'aimais, maman, c'est sûr, mais je réagissais des fois, peut-être parce que inconsciemment, je réalisais que je ne pouvais pas être comme les autres, mais là, j'essaie de m'imaginer voyante, puis prenant soin de mes frères, puis aidant maman à préparer des choses, parce qu'elle a travaillé tellement, s'occuper de nous, puis d'aider papa au commerce, puis enfin, un tas de choses. Ça a été une vie vraiment difficile pour elle. L'impression d'avoir été trop surprotégée. Pas seulement l'impression, mais j'ai été réellement surprotégée parce que maman ne me laissait pas faire grand-chose à la maison. Quand je suis arrivée à l'Institut Nazareth, je ne savais ni manger seule, ni m'habiller, ni me laver. C'était des problèmes un petit peu. On ne m'a pas appris à vivre en tant qu'aveugle parce qu'on ne savait pas comment faire. Comment les gens pouvaient-ils concevoir qu'on pouvait faire quelque chose sans voir? Tout le monde se fie sur ses yeux, c'est normal aussi. Avant que nous entendions parler de l'Institut Nazareth, où je vais aller finalement, on ne connaissait même pas l'existence de cette école. On ne savait pas qu'il pouvait se faire des choses pour les aveugles. Enfin, bon, il me gardait à la maison, puis il se demandait sans doute comment ils allaient faire un peu plus tard, mais en attendant de trouver une solution, puis il s'occupait de moi toujours comme une enfant. Mais c'est sûr que dans la famille, on pouvait échanger. Mais j'allais des fois chez des personnes aussi, des petites filles qui demeuraient pas loin de chez moi. On m'invitait quelquefois, puis on parlait avec moi. Mais jusqu'à ce que j'aille à l'école, je me sentais pas vraiment seule parce que j'étais bien entourée quand même. Je m'ennuyais pas vraiment. Mais en grandissant, quand j'étais capable de faire plus de choses par moi-même. Là, j'aurais bien voulu qu'on me laisse un peu d'initiative à la maison. On m'en laissait, bien sûr, un peu, mais jamais jusqu'à aller, par exemple, aider ma mère, je ne sais pas, en cuisine ou en quoi que ce soit, ou dans la maison, là. Mais ensuite, bien, je sortais très peu, mais comme je commençais à aller à l'école, bien, à un moment donné, j'ai pu lire aussi à la maison. J'écrivais des lettres à mes amis avec l'écriture braille et tout ça. Et puis, bon, je jouais toujours du piano, puis j'écoutais la radio. Alors, le temps passait. Je n'ai pas connu d'autre école que l'Institut Nazareth. Ben, évidemment, mon frère aîné avait commencé à aller à l'école. Ma mère, des fois, lui posait des questions en ce qui concerne le catéchisme, toutes des choses comme ça. Puis, là, je commençais à apprendre un peu, mais je ne pouvais pas écrire, évidemment. Mais je voyais que mes frères avaient des sacs d'école avec des coffrets, des crayons et tout ça. Puis j'avais hâte d'avoir ça, moi aussi, rendu à l'école. Je dis que ça a changé de... En tout cas...
On aime nous aller voir pendant que nous qu'il ne nous mangeait,
Oui, ça a été une grande expérience pour moi, l'Institut Nazareth. Avant que mes parents connaissent l'existence de l'Institut, je devais avoir peut-être 7 ans. C'est par l'intermédiaire de M. Paul Doyon, qui lui-même était passé par Nazareth. Il avait une maison ou un chalet, je crois, à Laval, et il venait de temps à autre faire son épicerie avec sa dame chez mon père. Et puis, là, mon père a parlé de moi, parce que M. Doyon était aveugle lui-même. Il leur a parlé de l'Institut Nazareth, mais mes parents ont pris un certain temps avant de se décider à me laisser partir. Ça leur coûtait beaucoup au début. C'était difficile pour eux de concevoir comment j'allais pouvoir fonctionner avec ça. Mais à l'âge de 8 ans, finalement, je suis entrée à l'Institut Nazareth, qui deviendra plus tard l'Institut Nazareth et Louis Braille, mais à l'époque, c'était l'Institut Nazareth, qui était sur le chemin Reine-Marie, une grande maison. C'est comme ça que j'ai commencé à l'Institut. Mm-hmm. L'Institut Nazareth a été une grande importance pour moi parce que, d'abord, quand je suis entrée là, ça m'a conduit vers la musique parce qu'on se rendait compte que j'avais le talent, je jouais par oreille. Alors, c'est certain qu'on m'a poussée de ce côté-là parce que Nazareth était réputé pour son école de musique. C'était vraiment la spécialité. Ça a été fondé en 1861, l'Institut Nazareth. Et très tôt, la réputation s'est faite. Ils ont formé de grands musiciens, là. Puis il y a même des professeurs de France qui sont venus, comme Mme Rosalie Evrard, qui est venue prêter main forte. Et puis M. Paul Le Tondal, le père d'Arthur Le Tondal, qui venait aussi. Alors... quand je suis arrivée à l'Institut Nazareth, évidemment, je n'ai pas commencé tout de suite à apprendre la musique. Il fallait d'abord apprendre à écrire, hein. Il fallait connaître le braille, apprendre à écrire, apprendre à lire. Puis ensuite, on pouvait lire assez couramment, connaître très bien notre alphabet. là, on commençait à apprendre le solfège. Et c'est là que ça commence les débuts de mes études musicales, tout en poursuivant les classes aussi, les études académiques. Parler de mettre les doigts à côté, je vais vous consoler un peu. Parce que vous savez, de toute façon, les gens qui jouent, les voyants, ne regardent pas leurs notes. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous savez, même si j'ai étudié la musique longtemps, je fais toujours des erreurs parce que, vous savez, quand vous avez à la main gauche une basse suivie d'un accord et que c'est assez loin l'un de l'autre et qu'il faut le faire à une certaine vitesse, ça m'arrivait souvent d'arriver à côté. Il fallait que je travaille longtemps. Et puis, des fois, sans que ça paraisse trop. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Alors que j'avais moins de difficultés qu'au piano. La demande n'est pas la même. Au piano, il faut des fois de grandes extensions de la main. Je vais parler d'un petit peu technique, là. Les sauts périlleux, comme il faut aller chercher des notes loin, assez rapidement. Et puis les arpèges, c'était mes deux difficultés. Ça allait demeurer toujours, d'ailleurs, plus ou moins. Est-ce qu'il y a des morceaux qui m'ont créé vraiment des cauchemars? Non. Mais vers l'âge de 11 ans, j'ai commencé à étudier avec un professeur de l'extérieur, M. Arthur de Tondal. Au début, ça allait assez bien. À un moment donné, il me donnait des pièces assez difficiles. Puis, il disait, même si tu n'arrives pas à les jouer complètement, parfaitement, ça va te donner de la technique. Oh, il y avait des sonates de Beethoven, entre autres la quatrième. Il y avait des sauts d'octave à faire assez rapidement. Je commençais les premières notes, puis la dernière, j'arrivais toujours à côté. Ça ne m'a pas empêché d'aimer la musique quand même. Puis vous savez, ce que je faisais, nous entendions les unes les autres parce qu'au département musical, les studios, c'était pas vraiment insonorisé. Alors, nous passions dans les corridors, puis même on entendait notre voisin de studio. Là, je voulais pas les jouer par oreille, mais je disais, mon Dieu, elle a donc un beau morceau. J'aimerais ça le savoir. Je le jouerais chez nous. Puis, des fois, je le demandais, puis on me permettait de le copier. Puis, j'apportais la partition chez moi. Puis, pendant les vacances, je l'apprenais. Mais à l'orgue, c'était vraiment mon instrument. Vous savez, les sauts qu'on faisait, c'était plutôt à la verticale qu'à l'horizontale. Il y avait l'orgue, avait trois claviers. À un moment donné, j'avais un concerto de Handel. J'avais un passage que je jouais au clavier le plus haut, qu'on appelle le récit, puis une réplique au grand orgue qui était plus fort, puis c'était presque vis-à-vis. Alors, mes deux mains descendaient, puis je tombais presque automatiquement sur mes notes. Les gens trouvaient ça curieux que je puisse tomber comme ça d'un clavier à l'autre sans m'accrocher, mais c'était plus facile pour moi que de faire un saut à l'horizontale au piano. Alors que j'aimais beaucoup jouer du Bach, j'aimais aussi les symphonies de Vierne, qui est un compositeur français, un compositeur aveugle. D'ailleurs, j'ai eu un professeur aveugle à l'orgue, M. Conrad Letendre, qui venait enseigner chez nous, à Nazareth. Et puis, il m'a fait travailler beaucoup de pièces de Vierne. Puis, j'ai travaillé aussi avec Mme Françoise Aubut, qui, elle, est bien connue. Alors, j'ai fait des pièces de Bach, de César Franck. Il y a une pièce que j'aime beaucoup, que je n'ai pas travaillée, mais que j'aurais aimé, qui s'appelle le Cantabile. À un moment donné, ça devenait difficile un peu parce qu'il fallait avoir des grandes mains pour jouer du Franck. Parce que tous ces compositeurs du romantique là, du 19e siècle, je pense qu'ils avaient tous des grandes mains parce qu'il fallait aller chercher ça loin. J'aime beaucoup Debussy. Je l'aime beaucoup. J'ai travaillé plusieurs pièces de Claude Debussy. J'en joue encore actuellement. Il y a parfois des arpèges qui me font travailler un peu plus fort. Mais je l'aime. Quand j'aime beaucoup une pièce, là, je mets tout ce que je peux pour la jouer le mieux possible, en tout cas. À la fin des années 50, nous avions fait l'acquisition d'un orgue. Nous avions déjà un orgue à la chapelle. Nazareth s'est dotée d'une nouvelle aile qui a été construite. On a installé une salle de musique et là, on avait installé l'orgue avec les tuyaux qui se trouvaient dans la pièce, une pièce arrière là, qui avait été prévue pour ça. Et puis, c'est moi qui ai inauguré cet orgue-là en 1958. Là, c'était vraiment le sommet parce que nous avions même un quatuor à cordes et moi, je faisais le piano. À un moment donné, c'est difficile d'expliquer vraiment tout ce qui a pu se passer. Là, ça s'est enchevêtré un peu, puis avant qu'on prenne conscience de ce qui allait se passer. L'école de musique, on n'en voulait plus vraiment. Thank you.
En seconde partie, Madame Vanier nous raconte l'immense bouleversement qu'elle a vécu et dont elle a souffert, l'abandon de la musique à l'Institut Nazareth. Dans deux petites minutes sur Canal M. Restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Jeannine Vanier lorsqu'elle comprend que la musique va perdre de son lustre à l'Institut Nazareth dans les années 50. C'est un choc pour elle et le début d'une nouvelle vie.
L'école de musique, on n'en voulait plus vraiment. On trouvait qu'il y avait trop de musique et puis pas assez d'études académiques. C'était vrai dans un sens. Mais je pense qu'on aurait pu faire des arrangements avec ça. Mais il y avait aussi une question de subventions gouvernementales qui les ont mises dans un choix à un moment donné. Nous n'étions quand même pas si nombreux comme élèves à l'Institut Nazareth, 140, 150, je ne sais pas trop. Entre-temps, je vous ai parlé déjà de Nazareth sur le chemin Reine-Marie, mais le gouvernement l'avait réquisitionné comme hôpital militaire. C'était pendant la guerre, et puis l'Institut Nazareth a eu ses locaux sur le boulevard Crémazie, qui s'appelait dans le temps Chemin de la Côte-Saint-Michel. C'était au 1460 Crémazie Est. Religieuse qui dirigeait le département musical a été, j'ose le dire, ni plus ni moins que chassée dans l'Ouest, à Saint-Boniface, je crois. Mais j'avais été avertie durant l'été qui a suivi l'inauguration du nouvel orgue. Là, on nous avait réunis et puis là, notre directrice nous avait expliqué ce qu'il en était. Elle, moi, m'avait prise à part, elle m'a dit, tu fais mieux de quitter parce que de la musique, là, tu pourras pas continuer. Je le croyais à peine, hein, mais j'étais pas prête, évidemment, à partir comme ça. Moi, c'était pas du tout ce que j'envisageais. Je me sentais bien à Nazareth, puis je pensais faire comme les autres professeurs qui étaient demeurés là, après leurs études, et puis qui enseignaient là, quitte à aller même enseigner à l'extérieur quelquefois. Puis j'étais déjà organiste de paroisse. Depuis 1952, j'étais à l'église Saint-Paul-de-la-Croix. Puis ça marchait bien pour moi, là. Mais là, j'ai eu beaucoup de chagrin. Et puis, ça a été un bouleversement. Puis, évidemment, je ne pouvais pas me décider à partir tout de suite comme ça. Je ne savais pas où aller. Je n'étais pas pour aller dans ma famille parce que mes parents n'habitaient plus Laval. Ils avaient... mon père avait acheté un terrain au lac Ouimette. Puis, son rêve, c'était de finir ses jours à la campagne. D'ailleurs, à Laval, j'aurais pas eu de possibilité de travailler non plus. Alors, il fallait bien que je reste à Montréal. J'ai continué à aller à Nazareth parce qu'on n'a pas fermé l'école, évidemment, du jour au lendemain, là. Mais j'ai assisté à la décroissance, puis c'est ce qui a été encore plus douloureux. J'ai assisté à la dépréciation de la musique, non seulement à Nazareth, mais à Louis Braille, où j'ai dû enseigner aussi quelques années, et puis à une école anglaise aussi. Alors, partout, là, c'était des changements. Puis, on ne voulait plus de la même méthode, on voulait plus, on voulait autre chose. L'école de musique de Nazareth, c'était le fruit d'une longue tradition. Sans l'éliminer, c'est parce qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on aurait pu organiser mieux les cours académiques pour balancer, je ne sais pas. J'ai fini par quitter Nazareth, mais je continuais quand même à y aller parce que j'avais encore des élèves. Comme je vous dis, ça s'est éliminé graduellement. Puis il y avait encore des professeurs de l'extérieur qui venaient. Je continuais d'étudier aussi, alors je profitais du temps que j'avais pour préparer mes cours, mes devoirs à l'université parce que j'avais des travaux à présenter, bien sûr. Nous avions, jusqu'en 1955, un professeur, M. Gabriel Cusson, qui était un aveugle, qui était passé par Nazareth, et puis qui avait eu le prix d'Europe, et puis qui enseignait au conservatoire, et qui venait nous donner des cours d'harmonie, et de contrepoint, et de fugue, et tout ça, parce que là, j'en étais rendu là, au contrepoint et à la fugue. Et puis, à un moment donné, il a quitté parce qu'il se sentait fatigué, puis ça lui faisait beaucoup de travail. Il vieillissait, évidemment. Alors, j'ai hérité de la classe d'orgue et de la classe d'harmonie. Je continuais à voyager à Nazareth tous les jours. Thank you. fait, j'ai quitté Nazareth en 1959. J'avais commencé à me risquer à voyager seule, mais je voulais pas que ce soit su au début. Alors, nous avions un chauffeur qui venait nous chercher quand on avait à sortir. Alors, je l'appelais, puis je me faisais conduire jusqu'à Papineau. Papineau et Métropolitain, là. Il y avait encore des tramways sur Papineau à ce moment-là. Je me faisais conduire jusqu'à l'arrêt des tramways. La première fois que j'ai fait ça, le cœur me débattait, je vous dis. Mais j'ai été vraiment surprise de l'aide et de l'accueil qu'on me faisait. Alors j'ai pu monter dans le tramway. J'avais une canne blanche, une canne qui ne se pliait pas. Il y avait comme une poignée sur le dessus, là, ronde, là, comme les cannes ordinaires. Mais elle était... faut dire qu'à l'époque, ce qui a été ma chance, c'est que le trafic était moins fou qu'aujourd'hui. Les gens étaient moins pressés, puis plus avenants, on avait de l'aide, vraiment. On ne m'a pas montré à voyager, mais je craignais que si je leur en fasse part au début, qu'on m'empêche de le faire. C'est pour ça que j'ai commencé à faire comme ça, mais quand on s'est aperçu à un moment donné que je voyageais par moi-même, on a laissé les choses aller. Et puis là, bien, j'ai commencé à voyager en autobus, mais c'était quand même risqué parce que j'avais pas la bonne technique pour voyager avec ma canne blanche. Je m'en servais, mais c'est une drôle de façon. Est-ce que j'ai rencontré l'amour? Non. Il y a des personnes qui m'attiraient, mais disons que la place était déjà prise. Et puis, j'envisageais pas vraiment de me marier ni rien de ça. On me taquinait, mais quand j'ai commencé vraiment à aimer la musique, parce que au début, je le faisais parce que j'étais obligée, hein, j'avais des cours, puis des fois, j'aurais aimé mieux être en récréation, parce que je trouvais ça difficile des fois. Mais vers 15-16 ans, là, j'ai vraiment senti le besoin de la musique. J'en avais vraiment besoin, puis là, je sentais que ça allait être ça, ma vie. C'était là-dessus que je m'appuyais. J'ai eu des professeurs qui m'impressionnaient beaucoup, d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées, même il n'y a pas longtemps, qui m'impressionnent, mais je suis pas prête, c'est pas ce que je veux me lancer là-dedans. J'ai été professeure de musique, c'est ce que je voulais être, évidemment, mais... moi, je trouve en tout cas que j'ai pas si bien réussi que pendant mes études. En fait, j'ai fait mon possible. Il fallait travailler de toute façon. Je n'avais plus rien, là. Je n'avais plus de ressources. Parce que quand j'ai quitté Nazareth, nous avions une petite pension pour les aveugles qui avait été instituée dans les années 40, je crois. Mais quand j'ai commencé à travailler, on me l'a enlevée. Ah oui, il faut que je vous dise quand même que je n'ai pas pris de logement tout de suite. Quand j'ai quitté l'Institut Nazareth, je me suis trouvé une pension. J'ai pensionné chez une personne. Étant donné que j'étais organiste à cette paroisse-là, Saint-Paul-de-la-Croix, c'est une dame qui m'a accepté comme pensionnaire. Mais il fallait que je paye ma pension, bien sûr. Et c'était moins cher qu'un logement, mais quand même, il fallait que je paye ma pension. J'avais quelques élèves à la maison, plus mon salaire d'organiste. Non, c'était pas beaucoup. Et puis, en 67 seulement, j'ai commencé à enseigner à la faculté de musique. Mais évidemment, c'était moins cher qu'aujourd'hui, la vie, bien sûr. Quand j'ai commencé comme organiste, j'avais 50 $ par mois, plus 2 $ pour les funérailles et les mariages. J'ai eu une seconde maison de pension à partir d'avril 60. À côté de l'église où j'étais organiste, il y avait un pharmacien qui m'aimait bien, puis j'allais souvent m'asseoir à la pharmacie quand j'avais du temps libre et on parlait ensemble. Je connaissais bien la famille, on m'avait invité chez lui. J'allais faire de la musique. Il m'écoutait à l'orgue, tout ça. Ils m'ont trouvé quelqu'un sur une rue pas loin, étant donné que je pouvais maintenant voyager passablement toute seule. Je me suis installée chez ces gens-là. Là, c'était un couple. C'était mieux. Je faisais vraiment partie de la maison, là. Son frère, à la dame qui m'a hébergée, il faisait des pianos Blouin, qu'on appelait, et qui étaient faits sur le modèle des pianos Le Sage, qui étaient bien connus dans le temps. Il m'a emmenée chez son frère, à la dame, puis j'ai choisi un piano. Comment j'ai payé ce piano-là? Au moment où j'avais la pension des aveugles, mes parents avaient décidé de placer ça à la banque pour accumuler d'argent pour un peu plus tard. J'ai pu payer mon piano avec ça. Il a voyagé ce pauvre piano parce que j'ai déménagé souvent. J'ai eu mon premier logement en 1968, oui, en octobre 68. J'ai habité des sous-sols au début. Ça a contribué, je pense, à la détérioration de mon ancien piano parce que c'est toujours humide un peu dans les sous-sols. Hein. Et puis, à un moment donné, aujourd'hui, j'habite un haut duplex. Et moi qui ai déménagé si souvent, imaginez-vous, ça fait 26 ans que je demeure là. Parce que j'ai des propriétaires extraordinaires. Puis ce que je cherchais, c'était la sécurité et la paix, la tranquillité. Et quand je l'ai trouvé, j'ai pu être capable de partir. Il est assez grand, mais j'ai beaucoup de livres. Hein. Vous savez, ça nous prend quand même assez grand parce que les livres braille, vous savez combien ça prend de la place. J'ai des livres de musique, mais j'ai aussi de la Bible et puis j'ai différentes sortes de livres, là. Ça a été important pour moi, la religion. C'est pour ça que je vous parlais de la Bible. Et puis, mais ça s'est fait en deux étapes. Évidemment, tant que j'ai été à l'Institut Nazareth, je la faisais sans peine, ma religion. On allait à la messe tous les jours, c'est pas mal, hein? Mais on avait de la belle musique, on chantait, puis c'était beau. Quand il y avait des fêtes, on faisait des cérémonies, puis je me souviens de... Il y avait un cantique où on avait... comme accompagnement, orgue et piano, c'était une pièce de Gounod, un cantique à Sainte-Cécile, en tout cas. Ça s'appelait Prière du soir, mais il y avait eu des paroles à Sainte-Cécile dessus. Puis le 22 novembre, on fêtait Sainte-Cécile. Alors, on sortait... nos plus beaux cantiques. La religion, la musique, ça allait bien ensemble. C'est pour ça que quand les bouleversements dont je vous parlais ont commencé, au début, là, je me suis accrochée tant que j'ai pu, au bon Dieu. Quand j'ai eu mon premier logement, j'étais juste en face de l'église où j'étais organiste. Ben, j'étais organiste, évidemment, j'étais toujours là. Vous savez qu'il y a eu aussi des bouleversements dans la liturgie avec Vatican II. L'orgue, comme on le jouait, j'ai rien contre les textes en français, c'est très bien, mais on a abandonné beaucoup de belles musiques. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la messe à gogo, mais ce qui est arrivé, c'est que le maître de chapelle, nous avions une chorale, puis il a été obligé de descendre pour allumer la foule en bas. Et puis là, ben, ça faisait un décalage avec Oujubé. Vous savez, les cours, l'orgue arrivait plus tard dans la nef. Oui. Et c'était vraiment compliqué, là. Puis à un moment donné, le maître de chapelle a quitté. Puis la chorale s'est dissoute. Et puis, j'ai quitté de mon propre chef parce que en 1974, là, les gens voulaient avoir de la musique populaire au mariage, puis ça commençait à perdre vraiment de la valeur. J'avais tout copié ce qu'il me fallait. Et alors, j'avais tout copié les messes en grégorien, plus des messes polyphoniques qu'on chantait. Alors, j'avais emprunté les livres et j'avais tout copié ça pour avoir les partitions, les messes de Requiem et tout ça. Mais là, on ne voulait plus rien de ça. Et là, à la fin, là, j'ai décroché complètement. Mais je me suis accrochée quand même. Je n'étais pas capable d'oublier les paroles de Jésus, la vie de Jésus. Je ne pouvais pas oublier ça. Je l'écoutais, priais, je ne priais plus vraiment. J'allais à l'église tant que j'étais organiste, mais quand j'ai cessé de l'être, je n'y allais plus. J'ai repris avec mon contact avec la religion parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'a rempli de joie, puis qui m'a sécurisé, puis qui m'a fait réaliser à quel point Dieu ne m'avait jamais oublié. Bon, d'abord, je dois signaler en passant que pendant tout le temps où j'ai appris à voyager, il y a eu des fois où j'aurais pu être blessée, il aurait pu m'arriver vraiment, ou être même attaquée, parce que j'avais des cours à l'université, puis quand je revenais le soir, puis l'hiver, des fois, les chemins n'étaient pas bien faits comme aujourd'hui, puis ça m'est arrivé souvent de me perdre. Des fois, j'attendais longtemps, mais finalement, quelqu'un finissait toujours par arriver à la rescousse, puis à me remettre sur mon chemin. En fait, la grande chose qui a été le sommet de tout ça, c'est que quand la maison où j'habite actuellement s'est vendue en 1995, puis que mes nouveaux propriétaires sont arrivés, tellement gentils, tellement compréhensifs. Vous savez, quand on arrive comme ça dans le monde, là, puis que les gens ne nous connaissent pas, on n'est pas apprécié de partout. Il y a bien des fois où il y a des gens qui ne voulaient pas me louer parce que je ne voyais pas, qui se méfiaient. Puis je me sentais petite, vous savez, je me sentais comme, peut-être pas épiée, mais presque, tu sais, surveillée en tout cas. Avec eux, là, ça a été une ouverture. C'était une grâce pour moi en tout cas. C'était une grâce. Graduellement, j'ai commencé à prier, à me dire que ça se pouvait pas, là, que Dieu vraiment venait à mon secours. J'ai réalisé qu'il le faisait depuis longtemps, mais que je ne le voyais pas au fond. J'essaie d'imaginer quelquefois, comment aurait été ma vie si j'avais vu. Pour ce qui est des couleurs, j'ai aucune idée vraiment. Je les retiens de mémoire. C'est que avant qu'on m'enlève les yeux, parce que c'est vrai, je ne l'avais pas mentionné au début, j'ai eu l'ablation des yeux à 9 ans. Je ne voyais pas, mais je pouvais différencier la clarté et la noirceur, ce qui m'aidait beaucoup dans mon orientation. On appelle ça, je crois, la luminosité, mais j'avais aucune idée des couleurs. Quand j'étudiais l'orchestration avec M. Valran à l'université, il me disait de penser au rouge quand il était question de la trompette. Alors ça m'aidait un peu. C'est éclatant, bon. D'autres fois, il me parlait de fresques, de tableaux. Là, non, je pouvais pas, là. Je pouvais pas suivre. Mais si j'avais pu parfaire mes académiques, peut-être que j'aurais été intéressée peut-être par autre chose, je ne sais pas. J'ai une amie que j'aime beaucoup actuellement, qui est aveugle, qui est maintenant malheureusement faite de sclérose en plaques, qui est dans une chaise roulante, mais qui fait une vie extraordinaire. Et quand elle a quitté Nazareth, elle a fait des études en psychologie. Et puis, en prenant sa retraite, elle est tombée comme ça à la sclérose en plaques, mais elle peut encore vivre une très belle vie. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que j'aurais fait? Des fois, je pensais, peut-être que j'aurais aimé ça être infirmière. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Bien sûr, mes proches d'abord. Parce que j'ai l'impression que si je recouvrais la vue tout à coup, j'aurais peut-être peur parce que je ne suis pas du tout initiée. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Peut-être les gens me paraîtraient immenses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Toucher un visage, c'est quelque chose, mais le voir, puis surtout voir le regard, ça doit être quelque chose de très révélateur. Ce qu'il y a après la mort, je crois, alors, évidemment, pour le moment, je suis encore en pleine vie. Quand ça arrivera, comment je serai? C'est un petit peu, vous savez, peut-être comme ce matin ou quand on est à la veille de faire quelque chose de spécial et puis qu'on veut que ce soit bien ou bien qu'il faut aller chez un médecin ou qu'il faut aller avoir une opération une première fois. C'est jamais beaucoup d'avance qu'on y pense. C'est juste, j'y pense à la mort, j'essaie d'imaginer des choses des fois, mais on ne sait pas de toute façon comment ça va être. Mais c'est quand arrive le jour même qu'il va se passer quelque chose, là, je suis nerveuse. Mais avant ça, non, j'y pense, je m'y prépare, mais je n'ai vraiment pas peur. Mais est-ce que je vais avoir peur au dernier moment? C'est possible. Je pense que personne ne quitte facilement, mais puisque j'ai eu le soutien de toute ma vie, je l'aurai encore en partant.
Canal M, vous venez d'entendre l'audioportrait de Madame Jeannine Vanier.
Recherche, entrevue et montage, Clotilde Seille, technicien de son, Mathieu Tessier.